Vous écoutez France Culture.
Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
Aujourd'hui, Philippe Solers, d'Ulysse à Dionysos.
On sait que l'on a déjà beaucoup glosé sur l'Odyssée d'Homère, d'une part, et d'autre part sur le mythe de Dionysos dans la Grèce antique. Mais on s'aperçoit que ces légendes peuvent toujours être relues et sont en fait d'une richesse absolument insoupçonnée. Et c'est particulièrement ce que l'on trouve dans le dernier livre de Philippe Solers, « Guerre secrète » aux éditions Carnet Nord, où réfléchissant sur un épisode sur lequel d'habitude on ne s'appesantit pas beaucoup, un épisode de l'Odyssée qui est le combat contre les prétendants, et d'autre part sur le Dionysos d'Euripide dans les Bacchantes, mais le Dionysos qui doit se faire reconnaître dans sa propre cité d'origine, Philippe Solers essaie de voir quel est le lien qui unit ces deux personnages, et il le voit dans une réflexion précisément sur la guerre, sur ce que les anciens Grecs appelaient le polémos, et où éventuellement il construit des ponts avec la pensée chinoise, avec ce grand stratège, par exemple, on le sait, qui était Sun Tzu, et d'une certaine façon, avec tout le rapport que la Chine a avec l'ordre du monde. Et à travers ces guerres secrètes de Philippe Solers, on s'aperçoit que la mythologie est toujours extrêmement fraîche, qu'en réalité, elle a toujours des choses à nous dire, et qu'aujourd'hui même, elle peut être encore parfaitement actuelle. Et c'est pour ça que nous avons décidé de revenir vers cette figure énigmatique d'Ulysse, de revenir vers cette figure encore plus énigmatique de Dionysos, à ce moment où, selon ce que nous disent aujourd'hui les hellénistes, la parole n'était pas encore une parole de vérité comme celle de la philosophie, mais était d'abord une parole énigmatique.
Je me suis demandé ce que signifiait le nom même d'Ulysse et qui lui avait donné ce nom, Odosomai. Donc l'homme aux mille ruses, d'accord, tout ça. Mais qui lui a donné ce nom? Et ça, je dois à mon ami Marcel Détienne. Pourquoi, à son avis, c'était le père de la mère d'Ulysse qui lui avait donné ce nom? On porte ce petit Ulysse sur les genoux du père de la mère, qui s'appelle Autolycos, et c'est lui qui lui donne ce nom, qui veut dire en quelque sorte la haine. Mais la haine, est-ce que c'est qu'il est habité, cet enfant sur lequel on impose ce nom, quel nom de baptême étrange? Est-ce qu'il va être plein de haine, ou bien est-ce qu'il sera poursuivi par une sorte de haine? Et c'est très intéressant. Autolycos n'est pas n'importe qui, c'est une sorte de voleur, un brigand, et qui a comme par hasard, comme compagnon, le dieu Hermès. Et vous voyez tout de suite, la question qui s'est posée pour moi, c'est quelles sont les relations entre un mortel et les dieux? Les dieux sont vivants, ils sont plus là, ils se sont enfuis, mais tout de même on peut les convoquer. Et l'Odyssée, de ce point de vue, est quelque chose d'extraordinairement intéressant.
sotto la grida. Vendetta, vendetta, vendetta.
Le dieu qui poursuit Ulysse de sa haine, c'est Poséidon. Pourquoi ? Parce que, oui, il y a aussi l'histoire du Cyclope, c'est le fils de Poséidon. Ulysse est poursuivi par la haine de ce dieu, l'ébranleur de la terre, la navigation. Il est empêché par cette haine de rentrer chez lui. S'il n'avait pas, par ailleurs, le soutien constant, étonnant, de cette déesse pourtant redoutable, qui s'appelle Athéna, il n'y serait jamais arrivé. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'un mortel, celui-là en tout cas, soit l'objet de la haine d'un dieu et de l'amour d'une déesse, d'un dieu aussi, si vous voulez. Voilà, c'est ça qui me paraît le plus intéressant, parce que c'est d'une violence extrême. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que je suis passé par les rapports entre ce héros grec. Les Grecs, c'est, comme dit Nietzsche, le peuple d'Ulysse. Ulysse plaît au dieu qui sourit de son esprit, de ses ruses, de son inventivité. L'homme mobile tour, génieux, rusé, il sait faire. Eh bien, ce sont les rapports d'Ulysse avec la substance féminine qui me paraît être lisible d'une façon tout à fait nouvelle, à savoir d'abord pourquoi cette déesse qui n'est pas du tout aphrodisiaque, Athéna, surgit tout entière du crâne de son père, Zeus. Pourquoi le prend-elle vraiment comme son amour? Au passage, l'enfouissement des noms de dieux grecs en latin est une catastrophe. C'est pas quand vous dites Jupiter, moi ça fait rire, c'est Zeus, n'est-ce pas ? Minerve, c'est encore, ça traîne encore dans le discours philosophique. Minerve, c'est Athéna. Vénus me fait sourire, Aphrodite me parle. Apollon garde son nom. Voilà. Mais Bacchus, en effet, ça peut être aussi le nom de Dionysos. Mais enfin, Dionysos, c'est qui ? Voilà, le dernier des dieux, celui qui boue. Alors, pourquoi un mortel est-il chéri d'une déesse particulièrement sévère, quoi qu'elle soit, là dans les arts ? Elle aime l'art d'Ulysse, en fait. Voilà. Elle le transforme à son gré, elle transforme son corps, son apparence. Et surtout, qu'est-ce que fait Ulysse dans ces histoires ? Dans ces histoires de femmes, parce que quand même, il y a Calypso d'abord, avec une promesse d'immortalité, ce n'est qu'il n'est pas rien pour un mortel. Et il y a ensuite Circé, c'est pas rien du tout, puisque c'est une vie de volupté permanente, hein, parce qu'il a trouvé l'antidote pour ne pas se faire transformer en porc, comme ses camarades. Et il y a Nausicaa, rappeler cette séquence extraordinaire de l'apparition d'Ulysse nu sous un branchage devant cette jeune fille qui, hop, ne s'effarouche pas tellement de son apparence. C'est déjà, vous savez, ce sont des nymphes, Calypso, il passe du temps au cou, un très bon temps, puis elles sont très éprises de Ulysse, Calypso, Circé, Nausicaa. Bon, ça dure un certain temps, mais on voit très bien qu'il aurait pu rester chez les Phéaciens, épouser Nausicaa, etc. Et puis surtout, je crois que là, personne ne l'a jamais dit, Hélène, la grande Hélène pour laquelle les Grecs sont partis faire la guerre de Troie. Vous avez ça dans l'Iliade et dans la Télémachie, c'est-à-dire dans l'Odyssée. Vous avez ce passage étourdissant où, de retour, parce qu'elle est rentrée, Hélène, après avoir consommé cet adultère fâcheux qui a fait tuer beaucoup, beaucoup de Grecs, d'Achéens. Et vous avez cette scène extraordinaire où elle voit arriver Télémaque, le fils d'Ulysse. Elle dit « Ah, c'est lui, c'est son père. » Or, dans le fameux passage de la guerre de Troie, vous savez, lorsqu'il y a un cheval en bois poli qui va rentrer dans la ville et la prendre, la dévaster, c'est la ruse d'Ulysse suprême. Eh bien, vous savez, le récit que fait Hélène, Car Ulysse, le rusé, l'homme aux mille tours, est bien, est bel et bien arrivé pendant la guerre de Troie, en haillons, comme un mendiant, comme il fait d'habitude, pour s'introduire sans être vu, pour voir l'état d'esprit. Les dieux circulent beaucoup parfois en mendiant, en haillons. Vous les rencontrez peut-être au coin de la rue, vous ne savez pas. Et là, il est entré dans Troie comme un mendiant. Hélène l'a repéré. Et elle est là, invitée à prendre un bain. Est-ce que dois-je insister ? Ulysse a bel et bien eu une aventure amoureuse avec Hélène. Il a pris Hélène. On n'est pas chez Paris, on n'est pas chez Ménélas, mais voilà. Pourquoi ? Parce que il lui dévoile ses plans, mais il les dévoile sous serment. C'est ce qu'on appelle le grand serment. Vous savez, chez les dieux, Circé aussi fait un grand serment. Un grand serment, ça ne peut pas être trahi. Il lui fait jurer le grand serment qu'elle ne dévoilera rien. Et après, vous avez cette séquence extravagante. Les Grecs sont dans ce cheval de bois. Est-ce que les Troyens vont faire rentrer ce cheval ? Oui, non, faut-il le brûler, etc. Mais Hélène tourne autour du cheval longuement, en appelant, elle sait qu'ils sont là, en appelant chaque Achéen, grec, par son nom, comme une voix maternelle, une voix d'épouse, mais de mère aussi. Et vous vous rappelez qu'elle ne trahit pas le grand serment. Elle fait en sorte par une ruse que s'ils veulent se trahir, ce sont eux qui vont se trahir eux-mêmes. Et vous savez qu'ils veulent tous répondre. C'est une voix de sirène, n'est-ce pas ? Une certaine enchanteresse, maman en quelque sorte, d'une certaine façon. Ah, les hommes sont si crédules, pas Ulysse. Et donc, voilà justement ce caractère-là. Et c'est lui qui les empêche de répondre, hein, en leur mettant la main sur la bouche. Voilà, je crois que ça c'est extraordinairement révélateur. Je n'ai pas lu beaucoup de choses sur cet épisode. Car finalement, Hélène à la fois trahit sa cité, puisqu'elle est quand même à Troie. Elle pense, dit-elle, déjà à revenir, mais elle ne trahit pas son grand serment. Si les Grecs avaient répondu à sa voix, il n'y aurait pas eu d'entrée de cheval de Troie à Troie. Et voilà ce personnage qui va ensuite rentrer chez lui après maintes aventures et va trouver en effet les parasites installés dans sa maison en train de bouffer son bétail et de convoiter sa femme.
Voyons, donnez-lui l'arc bien poli que nous le voyons faire, car voici ce que je vais vous révéler et qui assurément va devenir une réalité. S'il bande l'arc et qu'Apollon lui en donne la gloire, je le revêtirai d'une tunique, d'un manteau, de quoi le vêtir de belle façon. Je lui donnerai un javelot pointu qui protège des chiens et des hommes et un glaive à deux tranchants. Je lui donnerai des sandales sous les pieds et le ferai partir ou le presse d'aller le désir de son cœur. Homère, l'Odyssée. Ulysse saisit une flèche prompte qu'il a à sa portée, toute nue, sur la table. Il saisit la flèche et la met sur le coude de l'arc. Il tire la corde, en même temps que l'encoche, et du siège même où il est assis, devant lui, visant le but, il lance la flèche. Il ne manque pas l'œil de la première de toutes les haches. Le trait qu'alourdit le bronze les passe tous jusqu'au dernier, et sort.
Il arrive juste au moment où Pénélope va céder. Et là, c'est ce grand massacre, alors qui est prodigieux. Prodigieux parce que dans tous les détails de ce qui se passe, On a là une des scènes les plus violentes qu'on ait jamais écrite, avec une fin très, très étonnante, car l'épouse ne reconnaît pas la voix de son mari. Il arrive 20 ans après, elle aurait pu le reconnaître à la voix. C'est la nourrice qui reconnaît sa cicatrice, le chien d'abord, qui le sent. Sa femme ne le reconnaît pas. Comme c'est curieux. Elle n'est pas d'ailleurs pressée de le reconnaître. Sauf s'il lui donne alors, parce qu'une fois qu'il a tué tous ces usurpateurs, elle est quand même un peu ébranlée. Il y a du sang partout. C'est pas rien, il est toujours en haillons, alors il faut le nettoyer, etc. Je passe. Tout ça est absolument de merveilleux de finesse. Et c'est quand il va lui dire comment est fabriqué le lit de leur couche nuptiale, enfin le lit qu'a fabriqué lui-même Ulysse dans un bois d'olivier, c'est-à-dire dans le bois d'Athéna, que alors elle sera obligée de se rendre à l'évidence. Mais elle n'est pas du tout pressée de retrouver son mari, qui a beaucoup voyagé dans la substance féminine.
De ce rapport d'Ulysse au féminin, d'une manière générale, Philippe Sellers, parce que vous faisiez allusion à Athéna. Enfin, Athéna, on se rappelle bien qu'elle est sortie du crâne de Zeus, mais pour d'abord, Zeus, il a fallu qu'il avale la déesse Métis, c'est-à-dire l'intelligence oblique, l'intelligence efficiente.
La Métis au sens.
Voilà, vrai. Exactement. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, quand même, l'intelligence est d'ascendance et d'essence féminine.
Elle est d'essence féminine si ce féminin n'a pas eu de mère. Ce qui est quand même énorme, je vous le signale. Parce que Athéna sort tout armée du crâne de son père, qui a avalé Métis et l'avant. Donc, c'est un père enceint qui donne naissance à cette fille, qui est là, en effet l'intelligence suprême. Ce thème de l'absence de mère ou de la copulation entre Dieu, un Dieu et une mortelle va me retenir ensuite dans l'affaire de Dionysos, puisqu'il clôt le cycle des dieux, des Olympiens. Et c'est un dieu qui arrive à Thèbes, bien avant l'histoire de Laïus, de Jocaste, d'Oedipe, et qui veut tout simplement qu'on le reconnaisse sa divinité. Or, impossible, parce que c'est une légende que personne ne veut accepter, à savoir qu'il n'est pas possible que Zeus, Dieu suprême, ait eu un enfant avec une mortelle. C'est mêlé dans la maison, brûle encore. Étrange histoire, puisque là, nous avons en effet une question de naissance double, puisque Sébélé a été foudroyé par Zeus. Pourquoi ? Sur le conseil pernicieux de Héra, elle a demandé à Zeus de se montrer à elle dans toute sa puissance. Elle avait donc été embrassée par lui, au point d'en être enceinte. Mais là, elle va se trouver, puisqu'il accède à son désir, mais vraiment, ça va lui coûter la vie. Alors, elle n'est plus embrassée, elle est embrasée, là, hein, voilà. Donc, elle brûle, elle est foudroyée. Zeus prend l'embryon et le met dans sa cuisse. Je laisse filer la métaphore comme vous voulez, et écoutez bien de quoi il s'agit. Ces questions-là me paraissent essentielles aujourd'hui. C'est-à-dire, de nouveau, qu'est-ce que c'est que les naissances, qu'est-ce que c'est que les morts, comment ça se... Qu'est-ce qui s'agite dans cette affaire? Et donc, Dionysos est né deux fois, d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dieu qu'on ne veut pas reconnaître? D'ailleurs, comment reconnaître un dieu qu'on ne connaît pas? C'est une question qui me paraît intéressante, d'autant plus que vous avez, quelque part, en écho, Et ça, j'y pensais à cause de Nietzsche, Dionysos contre le crucifié. Le crucifié, écoutez, il a quand même été incroyable. Génité par le Saint-Esprit dans une vierge. Enfin, il n'est pas. Alors là, ça a fait beaucoup délirer, ça a fait beaucoup parler. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Nous ne pouvons pas reconnaître qu'un dieu s'est uni à une mortelle et qu'il en est né un enfant, un dieu, Dionysos, qui va se venger atrocement de ce déni dont il est l'objet. Comme quoi, un dieu ne veut pas forcément le bien des mortels. On a inventé un dieu bon, d'accord, un dieu généreux, un dieu... Mais enfin, ce dieu-là est sans doute mort. Et en tout cas, tout prouve que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un dieu peut vouloir la perte des mortels. Pas forcément un bon dieu, non. Et là, je trouve aussi que c'est très, très frappant. Ces deux destins, Nietzsche a compris ça très bien. Quand il dit Dionysos contre le crucifié, c'est comme si c'était un affrontement, mais ça veut dire aussi un face-à-face, une sorte de duo considérable. Il a beaucoup réfléchi à ça, en pensant qu'un dieu comme Dionysos, ce serait le dernier, en effet. Problème qui travaille beaucoup à Heidegger aussi dans ses recherches philosophiques. Le dernier dieu, mais alors ce serait un dieu philosophe. Dionysos philosophos. Vous voyez bien que les philosophes étant dans une situation d'effondrement général, parce que la philosophie se décompose, un dieu qui serait philosophe est tout aussi impossible qu'une mortelle enfantant un dieu.
Chi crederebbe mai? Si fanno queste mascherate in cielo? Grazie ti rendo, protettrice ben so che per tuo amore furon senza periglio i miei pensieri. Or consolato, seguo i tuoi saggi consigli.
À un moment donné, je me dis, bon, voyons, je travaille là-dessus, et qui est-ce qui pourrait faire un lien entre Ulysse et Dionysos? Je cherche, et puis un jour ça tombe sous mes yeux, mais c'est le cyclope de Répine, n'est-ce pas? Et il y a ce rapprochement extraordinaire entre Ulysse et Dionysos, puisque le cyclope tient en servitude les Silènes. Il en mange un de temps en temps, c'est toujours... Le cyclope, n'est-ce pas? Le cyclope, c'est la caméra d'aujourd'hui qui surveille, la caméra de surveillance, si on peut dire. Il n'y a qu'un œil dévorateur. Et donc, ces Silènes sont des anciens serviteurs des Dionysos, qu'Ulysse libère. D'où l'exergue du livre Guerre secrète. Et nous serons toujours des matelots sur le bateau d'Ulysse, nous, serviteurs des Dionysos. C'est-à-dire que c'est un dieu marin. Il a beaucoup de définitions possibles de Dionysos. Mais enfin, il ne faut jamais oublier, surtout quand on est avec les Grecs, que tout ça se passe beaucoup en bateau.
Oui, mais ce qui est assez étonnant, c'est que le vers que vous citez, autant que je me rappelle, il est au tout début
de la pièce d'Euripide.
Oui,
c'est-à-dire que le cyclope est lui-même mis sous l'invocation de Dionysos, d'une certaine manière.
C'est-à-dire qu'il est sacrifié à Dionysos. C'est pour ça que Poséidon est de plus en plus... Il y a un remue-ménage des dieux à quoi Dionysos met fin, en quelque sorte. C'est le dernier. Mais le dernier, extraordinairement redoutable. C'est un dieu plein de douceur. C'est un dieu qui vous a donné, et nous le saluons respectueusement pour ça, le vin, la vie. C'est un dieu du vin. C'est un dieu qui veut vous changer l'eau en vin. Ça rappelle quelque chose aussi. Je sais pas, du côté de Cana. En tout cas, c'est curieux, ces parallélismes. Mais c'est un dieu extrêmement redoutable qui, lorsque vous lui refusez son identité, rend les femmes folles. Alors, le panthée qui refuse de reconnaître la divinité de Dionysos, eh bien, il va subir un traitement atroce. Puisque par désir sourdement lubrique, il veut aller voir comment sa mère se livre à des orgies avec les autres ménades. Il est pris dans ce piège. Il croit qu'il s'agit de sexualité, le pauvre imbécile. Alors que chacun entende bien cette prophétie, en quelque sorte. Il pense que c'est ça. Et donc il va subir un sort. Mais épouvantable, à savoir que c'est sa mère qui va le décapiter et la ramener comme si elle avait chassé un lion. Donc, vous voyez, nous sommes dans une révélation terrible, terrible. Voilà ce que ça coûte de refuser la divinité de Dionysos. Tirésias et Cadmos, vous avez remarqué dans la pièce d'Euripide, sont prudents. Les vieux sont prudents. Ils trouvent que ça sent le soufre, il vaut mieux être calme. Alors que Panthée, qui est roi, refuse absolument cette espèce de dieu un peu efféminé, qui est très bon. On sent qu'il est absolument sous le charme physique de Dionysos et ça va lui coûter la vie. Vous voyez, ce massacre des prétendants, c'est dû au fait qu'on ne veut pas reconnaître que quelqu'un est chez soi. Ça coûte très 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 cher. Ce sont des usurpateurs, des parasites, en quelque sorte, qui payent. Parce que les dieux soutiennent ce mendiant d'Ulysse, pas qui tout à coup, sous la baguette d'Athéna, et Zeus intervient aussi à ce moment-là, et Apollon donc, à ce moment-là. Voilà. Donc, il y a un massacre. Du même côté des choses, vous avez en effet le massacre de Panthée dans les Bacchantes d'Euripide. Donc, Ulysse et Dionysos, tout à coup, m'ont parlé du plus profond de la chose grecque. Après ça, je suis passé au stratège chinois. C'est encore une autre affaire. Mais la rencontre entre la Chine et la Grèce... tarde, si je peux dire.
Si vous voulez bien, Philippe Sellers, on viendra à la Chine un tout petit peu plus tard. Je voudrais quand même vous poser encore une question, au moins une question sur Dionysos. Parce qu'on est quand même étonné, en lisant Euripide, de se dire, mais quand même, d'une certaine façon, Penthée, c'est quand même le cousin germain de Dionysos, puisque la mère de Penthée est la sœur de la mère de Dionysos.
Absolument.
Et de penser
que... Vous avez tellement raison que c'est une affaire de famille, que la calomnie contre ses mêlées vient de ses sœurs. Agavé, en effet, et les autres, sont absolument furieuses que Sémélé ait pu dire qu'elle avait couché avec Zeus, au point d'en être enceinte.
Ce qui est étonnant, c'est que les dites sœurs sont toutes les filles quand même de Cadmos d'un côté, mais d'Harmonie de l'autre.
C'est ça.
On se dit, comment l'harmonie donne-t-elle finalement un carnage ?
voilà. La sortie.
Voilà, parce que c'était une fausse harmonie. Quand la jalousie en arrive à un point tel, l'harmonie est faite en effet, en général, pour que les dieux ne bougent plus. Voilà. Or, ils bougent.
Et en même temps, on se dit, ce qui est tout à fait étonnant, Dionysos est toujours considéré comme l'étranger. Et on sait que c'est le qualificatif Xenios qui lui est généralement donné en grec. Or, en fait, quand il arrive à Thèbes,
c'est son sol natal.
Il n'est absolument pas étranger, puisqu'il est né, il est Thébain.
Voilà. Eh bien, est-ce que vous ne pouvez pas, à ce moment-là, admettre ou concevoir, mais si, que personne n'est plus étranger que celui qui est absolument chez lui. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas seulement il y a nul n'est prophète en son pays, encore que c'est tentant de le dire. Mais là, ce que Dionysos dit, c'est que nul n'est Dieu à son lieu de naissance, ne peut être reconnu comme Dieu. Voilà. Et donc, la violence surgit. C'est ça, c'est le déni. Qu'est-ce que c'est que, ou la forclusion, si vous voulez employer, hein, Werwerfung en allemand chez Freud, la forclusion du Dieu. Et la forclusion, vous savez ce que c'est? C'est quand il y a un trou, ça dans le symbolique. Mais ce qui ressurgit à ce moment-là, dans le réel, c'est l'hallucination. Il est probablement l'hallucination violente. Donc, le secret, en quelque sorte, de la violence que vous avez tous les jours, parce que Dieu est mort, mais enfin, il n'en finit pas de se décomposer. Je ne vais pas faire appel à l'actualité, ça n'est que trop visible. Cette forclusion, ce trou dans le symbolique, se paye d'une violence déchaînée. Donc, nous avons un problème avec le divin, ou les dieux, et ou ce qui s'est appelé comme ça. Mais enfin, le Christ aussi, il n'a pas fait un tabac en Palestine en venant prêcher le fait qu'il s'appelait Je suis comme son père. Enfin, appelez-moi Je suis, comment son dernier nom, Je suis. Voilà, vous avez ça, c'est tiré directement d'Exode 12-14. Ayez à chair, ayez le buisson. Voilà, je suis qui je suis, ou je serai qui je serai, comme, parce que l'hébreu peut passer du présent au futur. Je suis, et c'est tout ce que vous avez à dire. Je suis, alors c'est quoi? Je suis, non, surtout pas. Il n'y a pas de, mais alors c'est vous? Non, c'est pas moi, c'est je suis qui je suis, ou qui je serai. Voilà, c'est cette simple détermination à être, j'allais dire plutôt qu'à exister, qui fait problème.
Autour du spectre de Zeus. Vous savez, pour Bromios, quelle fête les habitants du ciel préparent en leur demeure.
Près de la grande mer,
retentissent les tambourins,
résonnent les cymbales,
et sous les blonds sapins,
monte le feu des torches. Le délire lance son cri, les nuques se renversent.
En courant,
s'avance Artémis, la solitaire.
Pour l'orgie de Bacchus,
elle a mis sous le joug
la horde sauvage des lions.
Car Bromios aussi se plaît
à voir danser les fauves. Pindare, dithyrambe.
On a l'impression que devant les dieux, Philippe Solers, les hommes n'arrivent jamais finalement à savoir quoi penser ou d'une certaine façon qu'ils se
trouvent
toujours.
Ça fait beaucoup délirer.
Parce que vous parliez d'hallucination. Oui, on sait très bien que lorsque sa mère Agave déchire Penté, elle a une hallucination puisqu'elle le voit comme un animal sauvage. Et d'autre part, quand même, Penté est allé se cacher, on le sait, dans les ramures d'un arbre.
Oui, Dionysos l'a installé.
Il l'a installé, mais quand même déguisé en femme. Et j'aimerais bien quand même avoir votre idée là-dessus, parce que je pense que le déguisé en femme est absolument essentiel, plus que Dionysos lui-même, son identité de genre, disons, n'est pas très très claire.
Alors, la virilité de Dionysos vient de son apparence féminine, très trompeuse donc. Il a une apparence féminine, mais il n'en est que plus viril. L'apparence viriloïde pourrait être au contraire bizarre. Sur le plan de l'efficacité symbolique, intra-sexuelle, si vous voulez. Or, Panthée est très séduit par Dionysos, rappelez-vous. Il lui trouve qu'il a de belles boucles, qu'il a le teint allé, que c'est pas... ça doit être pour ça qu'il plaît tellement à toutes ces femmes devenues folles, etc. Au point que Dionysos le prend au piège. Et précisément, lui dit « Ah, tu veux savoir, tu veux voir ta mère en pleine orgie. Alors, ben, tu vas t'habiller en femme, parce qu'il faut passer discrètement, il ne faut pas que tu apparaisses comme un homme, parce qu'elle déteste voir un homme. C'est dans le récit euripidien, n'est-ce pas ? Il y a des témoignages qu'il n'est pas question qu'un homme s'approche de cet enclos sacré, où les femmes, loin de se livrer à des actes sexuels, se livrent à des... Enfin bon, je vous laisse la lecture de Répit, c'est admirable. Elles allaitent des loups, elles sont un bon. Et Panthée est pris dans ce piège. Donc, non seulement il s'habille en femme pour surprendre le secret de sa mère, mais en plus, Dionysos l'installe très en vue, alors que tu verras tout. Tu vas, il est au spectacle. Il va voir, enfin, appelez ça scène primitive si vous voulez, c'est beaucoup plus intense que ça. Il est tout à fait visible, voilà, et évidemment, être déguisé en femme ne le sauve en rien, parce qu'il a, il est humain, trop humain. Mais Dionysos, remarquez-le, le met bien en vue sur un arbre, le bois, quelque chose de très intéressant. Là. Et la mère le prend pour une bête sauvage. Il est affreusement dépossé. C'est quand même, vous voyez, c'est un infanticide. Panthée est un adulte, etc. Mais c'est un infanticide absolument violent. Quelque chose nous parle là, crûment.
Je vois le tombeau de ma mère, la foudroyée, tout à côté de sa maison, dont les ruines sont encore fumantes, car la flamme de Zeus y vit toujours, témoignage éternel du mal qu'Héra fit à ma mère. Je sais gré à Cadmos d'avoir consacré cet endroit et fermé aux profanes le sanctuaire de sa fille. De la vigne qui tout entoure le cache, c'est moi qui fis pousser le feuillage et les grappes. Euripide, les Bacchantes. Tandis qu'à l'Asie, j'ai enseigné mes cœurs et mes mystères afin de me déclarer Dieu au regard des humains. Cette ville est en Grèce la première où j'arrive. Oui, Thèbes est le lieu que j'ai d'abord rempli de mes appels. C'est ici que les sœurs de ma mère, qui moins qu'elles en avaient le droit, nièrent que Dionysos fût né de Zeus. S'étant unis à un mortel, s'est mêlée, conseillée par Cadmos, à Zeus imputa, disent-elles, la tâche de son lit. Et si Zeus la tua, ce fut pour la punir de son mensonge. Euripide, les Bacchantes.
Si vous voulez, Philippe Solers, qu'on fasse un détour par un thème apparemment assez étrange, qui serait celui de la musique. Je veux dire par là que Dionysos est le dieu quand même de cérémonie musicale très profonde.
Bien sûr.
Et
Nietzsche.
Nietzsche.
Bien sûr.
L'a beaucoup fait ressortir. Et dans le texte grec de l'Odyssée, on est très frappé de voir que lorsque Ulysse bande son arc, l'arc, à un moment, deux fois dur, vient l'expression l'arc musical. L'arc musical, c'est-à-dire la lyre.
L'arc et la lyre. Donc nous savons que là, nous sommes aussi bien chez Héraclite que chez Apollon. L'arc rend un son. En effet, c'est ce son qui est un son de vie ou un son de mort. Parce que voilà. Cette scène, vous savez, vous avez repéré la façon dont se passent l'épreuve. il faut qu'un des prétendants, pour obtenir Pénélope, c'est-à-dire les biens complets, la femme du héros, célébrée dans toute la Grèce déjà. C'est donc très, très appétissant. Tout ça. Et donc il faut que la flèche envoyée par des trous de hache, qui sont disposés en fil, il y en a 12. Il faut qu'une seule flèche traverse 12 trous. Ça fait beaucoup. Donc il faut avoir de la force, tirer très juste et traverser d'une seule flèche ces 12 trous. Alors ils échouent lamentablement. C'est d'ailleurs tout ça se passe selon dans la fête d'Apollon. Et donc Apollon est là aussi. Ah, l'archer de l'Iliade. L'archer terrible. Apollon, c'est pas du tout un dieu qui est éthéré. Et donc c'est Ulysse qui a l'air vieux, qui a l'air d'un mendiant, dont tout le monde se moque. Puis tout à coup, sous la baguette d'Athéna, il retrouve. C'est lui qui franchit 12 trous à la fois. Ça aussi, c'est de la musique, si je peux dire. C'est-à-dire que il y a le son, vous avez l'hirondelle, pas l'hirondelle, c'est Athéna, hein, le son, la vibration, qui est donc associée au dieu, c'est Apollon, l'archer. Et en même temps, le fait de percer, de passer à travers 12 trous à la fois, ça me paraît une métaphore admirable. Hein. Il n'y a pas qu'un seul trou, il y en a au moins 12.
Mais si vous voulez, la question que je me pose, Philippe Soler, c'est de me rappeler qu'en grec, c'est le même mot dont on se sert pour la vie et pour l'arc, bios. Alors tout dépend si l'accent est sur le iota ou sur l'omicron.
Vie et mort.
C'est-à-dire vie et mort
Héraclite,
ensemble.
Héraclite.
Et de ce point de vue-là, donc on a renvoyé à Héraclite.
De toute façon, nous avons, si nous le voulons, si nous l'acceptons, nous avons la chance inouïe de ne plus être sous l'emprise de la philosophie grecque, ni de Platon, d'Aristote, c'est-à-dire de la métaphysique au sens classique. Nous avons l'immense bonheur, depuis Nietzsche et surtout Heidegger, de savoir qu'il y a des gens qu'on appelle pré-socratiques, formule absurde, pas comme s'il y avait précédé Socrate. C'est-à-dire Nietzsche se trompe aussi, il croit qu'Euripide annonce une décadence de la tragédie et que ça va, c'est Socrate qui arrive. Enfin, non, nous savons que nous avons sous les yeux des Parménides, des Héraclites, des Empédocles. Et là, alors, il faut renvoyer à Heidegger, qui est quand même incontournable sur ces questions.
Oui, mais c'est la question que je me pose en même temps.
Et donc, vous pouvez relire, pardon, à travers le fait que vous savez qu'il y a ces penseurs, vous pouvez relire d'une façon nouvelle, en effet, Homère et les tragiques grecs, sans parler de la poésie. Enfin, Homère, c'est la poésie. Sans parler de Pindare. Et à ce moment-là, vous êtes en connexion, mais presque automatique, spontané, sensible, avec Hölderlin, par exemple, et sa poésie sublime.
C'est la question que je me posais, Philippe Soler, en amenant à parler d'Héraclite, c'est de me dire, est-ce que, d'une certaine manière, nous ne sommes pas assez proches de la pensée chinoise? Bon, on sait tout un nombre de comparaisons qui ont été faites entre Héraclite et Lao Tzu, par exemple.
Absolument.
Et on a l'impression qu'il y a
des parallèles saisissants à faire François-Julien, d'ailleurs, je viens de faire un entretien avec lui, compare à un moment donné, je crois que c'est dans le traité de l'efficacité, l'eau chez Héraclite et l'eau chez Confucius. Bah, l'écoulement. L'écoulement incessant. Pantareil. Ouais. Donc, il y a certainement, si nous sommes sensibles à ce qui s'est formulé avant la prise métaphysique, ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de Platon et d'Aristote, bien entendu que non. Enfin, il faut être assez sensible pour voir, au moment où la philosophie s'effondre, ne fera plus rien que du bavardage moral ou de l'adaptation politico-morale, bon, de la sociologie si vous préférez, c'est-à-dire rien. Si nous sommes assez sensibles pour voir quelle est l'urgence, alors nous avons ce qui doit absolument la chose grecque primordiale, hein, c'est le mot. Et la Chine ne demande qu'à parler, qu'à nous parler.
Oui, mais c'est là où je me demande, est-ce que finalement ça ne renvoie pas à...
Ce sont loin d'Héraclite.
Oui, je sais bien. Mais est-ce que ça ne renvoie pas à une manière de voir le combat ou la guerre, disons, on se sert de ce
polémos.
Mot, d'une manière assez différente, parce
Héraclite,
que c'est le polémos père de toute chose d'Héraclite. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler cette très belle anecdote, je ne me rappelle plus dans quelle auteur elle est, mais dans laquelle deux généraux chinois sont chacun à la tête d'une armée, l'un en face de l'autre, et ils se disent, est-ce que c'est bien la peine de tuer nos soldats? Et donc, il tire Lui Qing. Et curieusement, c'est celui qui tire, enfin, pour nous, l'Orgide occidentaux, celui qui tire l'hexagramme le plus bas dans l'ordre, qui l'emporte parce que c'est l'hexagramme qui est le plus adapté. Et je me dirais, là, quand même, il faut quand même bien sortir de notre mentalité à nous.
C'est une question de situation. La guerre en chinois veut dire, est tout autre que celle qui a été théorisée en Occident, notamment par l'immense Clausewitz, mais nous ne sommes plus là, nous ne sommes plus dans la poursuite de la politique par d'autres moyens, non plus, et pas non plus dans la montée aux extrêmes vers une sorte de confrontation finale, frontale. La conception de la guerre occidentale est frontale. C'est tout le contraire en Chine. Jamais on attaque comme ça. La bataille est gagnée avant d'être livrée. C'est-à-dire que c'est la continuation de la nature, si vous voulez, par d'autres moyens, c'est-à-dire ou des mutations, des changements, du Yiking, si vous voulez, les gars. Et donc là, c'est une toute autre conception de la guerre. D'ailleurs, la conception de la guerre est constante en Chine, elle s'applique absolument tout le temps. C'est une sorte de façon de vivre en adaptation avec le cours même des choses. Alors qu'en Occident, il y a le moment de la guerre, ou le moment brutal. La Chine répugne, mais il y a eu des guerres, des massacres terrifiantes en Chine. Mais dans la théorisation de la guerre, le général vainqueur d'abord n'est jamais félicité. Il n'y a pas de quoi. Et ça veut dire qu'il était le mieux adapté, mais que la nature en l'a emporté grâce à lui. Mais c'est la nature. C'était le cours des choses. Et d'autre part, ça n'est jamais glorifié. Mais un très bon général, c'est simplement quelqu'un qui était le plus adapté aux mutations en cours dans la nature. Ce qui fait qu'au moment où la bataille s'engage, il a déjà gagné.
Mais est-ce que, d'une certaine manière, Philippe Soler, ça ne nous renvoie pas à ce terme que nous avons ensuite aussi mal compris, me semble, qui est chez les Grecs le terme de physis, de la nature, puisqu'on sait, on sait bien aujourd'hui que ça vient d'un verbe qui a à voir avec l'engendrement et l'engendrement perpétuel des choses selon leur ordre. Si on peut dire.
Voilà, mais c'est là où nous ne sommes pas encore assez familiarisés avec ce que les Chinois entendent par leur mutation. Il faudra d'un même geste devenir plus fondamentalement grec et quand même davantage chinois. Voilà ma conviction.
Yeah.
Livre.
Pour poursuivre d'une certaine façon la réflexion de Philippe Solers sur cet art de la guerre, sur ce polémos que nous ont légué les Grecs, je voudrais signaler la réédition aux éditions Boudot du livre de Miyamoto Musashi, Gorin no Sho, le traité sur les cinq éléments. Musashi, on sait que c'est un samouraï qui vivait dans le Japon classique, si l'on peut dire, et en réalité, il considère que son travail est une réflexion sur ce qu'il appelle la voie de la stratégie et où il s'inscrit dans ce qu'il appelle lui-même l'Iten Ishiryu, c'est-à-dire l'école des deux sabres. En réalité, nous avons là l'un des classiques sur la réflexion, précisément, tout en profondeur, sur qu'est-ce que c'est qu'une stratégie, comment d'une certaine manière se mettre en posture de combat telle qu'on n'a pas besoin de livrer combat et où c'est la force de l'esprit qui l'emporte. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il est tout à fait significatif de voir que ce traité des cinq éléments renvoie bien sûr aux quatre éléments tout à fait traditionnels et au cinquième élément qui n'est même pas l'éther des hindous anciens, qui n'est même pas le bois des chinois classiques, mais qui est d'abord le vide. Et de ce point de vue-là, évidemment, on voit aussi quelle est la relation avec la philosophie bouddhiste. Le vide existe, et pourtant il n'est rien. C'est la connaissance de ce qui existe qui rend accessible ce qui n'est pas. Ainsi en est-il de la vacuité. Et puis, d'autre part, dans la mesure où nous avons vu qu'il pouvait y avoir des ponts, des liens secrets, même à travers les siècles, entre certaines figures mythologiques, comme celle de Dionysos, et la figure divine qui a irrigué toute notre culture, c'est-à-dire celle du Christ, je voudrais m'arrêter sur le dernier ouvrage de Jean Mambrino, « Les ténèbres de l'espérance », aux éditions Harfeuillennes. En fait, il s'agit de tout un ensemble de poèmes, mais qui est placé sous l'invocation, que l'on trouve dès le départ, de cette citation des psaumes, dans le psaume 88, « Ma compagne, ce sont les ténèbres ». D'une certaine façon, évidemment, on voit quelle est la parenté, en quelque sorte, avec la nuit obscure de Jean de la Croix, mais où, en même temps, on peut se demander s'il ne s'agit pas, d'abord et avant tout, de la ténèbre de Dieu, cette ténèbre qui consiste dans la nuée de Moïse sur le Sinaï et sur laquelle a tellement réfléchi quelqu'un évidemment comme Saint Grégoire de Nice dans sa vie de Moïse. Et où on pénètre là, si l'on peut dire, jusqu'au cœur même du christianisme, au-delà de son aspect religieux, au-delà de son aspect historique, au-delà de son aspect sociologique, dans le cœur même du message évangélique et d'une manière générale du message biblique. Il n'y a qu'un seul monde et qu'une seule histoire. Et chacun s'en nourrit dans le même présent. Mort ou vivant, il pleure en rêvant la victoire de l'heure où s'ouvrira l'aube de l'océan. Et puisque nous en étions à cette figure du Christ, à ce rapport au christianisme le plus profond, je voudrais signaler l'ouvrage de Frédéric Lenoir, Le Christ philosophe, aux éditions Plomb. Le fond de la thèse de Frédéric Lenoir est d'opposer la chrétienté à ce qu'il appelle le christianisme, et ce n'est pas pour rien, bien sûr, qu'il commence par l'évocation de la fable du grand inquisiteur que l'on trouve dans les frères Karamazov de Dostoïevski. Cette plainte, en quelque sorte, où le Christ explique qu'il a été trahi par ceux qui l'ont suivi et qui, d'une certaine façon, ont transformé sa prédication en l'exercice d'un pouvoir. Ou plutôt que le Christ, d'ailleurs, c'est le grand inquisiteur qui s'explique lui-même sur sa propre action. Et de ce point de vue-là, Frédéric Lenoir, à travers une enquête historique, remontant d'ailleurs jusqu'à la philosophie grecque et la manière dont elle a inspiré, dont elle a instillé la pensée des pères de l'Église, particulièrement des pères de Cappadoce, ou alors de ceux qu'on va appeler les pères de la théologie négative, Frédéric Lenoir, donc, essaie de montrer comme il y a ce que Erasme a appelé beaucoup plus tard une véritable philosophie du Christ, une philosophie qui était qui tenait dans un message d'émancipation une philosophie qui a permis la naissance de ce qui marque sans aucun doute la civilisation occidentale, à savoir la science, la psychanalyse et la libre pensée. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on s'aperçoit comme Frédéric Lenoir n'est pas loin de thèses comme celle de Coiret, la manière dont il avait essayé de comprendre l'arrivée de la pensée moderne à la fin de la Renaissance et au début du XVIIe siècle, et comme c'est un véritable message de liberté qui nous est ainsi délivré. Face au péril des fanatismes religieux et de leur vision totalitaire de la société, mais aussi d'un matérialisme consumériste déshumanisant, notre monde a besoin d'un nouvel élan qui réunisse tous ceux qui sont attachés à la dignité et à la liberté de la personne humaine. Enfin, dans un horizon totalement différent, je voudrais m'attacher au livre de Carlo Severi, « Le principe de la chimère », coédité par la Rue d'Ulm, c'est-à-dire les éditions de l'École normale supérieure, et d'autre part, le musée du Quai Branly. De quoi s'agit-il, si ce n'est d'une anthropologie de la mémoire, c'est-à-dire de la manière dont on s'interroge sur quels sont les outils de la mémoire des peuples qui n'ont pas connu le phénomène de l'écriture. Et à travers une réflexion sur l'ornementation, en particulier les bijoux, les coiffures, etc., sur la pratique de la peinture corporelle, sur l'usage du masque, sur la découverte du pictogramme, qui d'une certaine manière est précisément le début d'un mouvement vers l'écriture, essayer de comprendre quelle est la fonction de l'image éventuellement inscrite dans le corps, de l'image représentée et donc la fonction du regard qui regarde cette image. Comme le Christ Apache, Dame Sébastienne fait face à son ennemi tout en l'incarnant. À travers cette représentation, la menace exercée par la présence de l'Indien, exclue du discours explicite, devient un aspect de la représentation rituelle de la Passion pendant la Semaine Sainte.
Les livres aujourd'hui. Le traité sur les cinq éléments de Musashi aux éditions Buteau. Des ténèbres de l'espérance de Jean Mambrino aux éditions Arfuyenne. Le Christ philosophe de Frédéric Lenoir aux éditions Plomb. Et le principe de la chimère de Carlo Severi. Une coédition de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et du musée du Quai Branly. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Philippe Solers. Texte lu par Anne Dupuis et Catherine Matelli. Mixage Mathieu Leroy, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.